Livre de Ruth, chapitre 18, verset 18, pardon, chapitre 3. Donc, on se souvient du contexte. Conformément aux ordres de sa belle-mère, eh bien, Ruth est allée trouver Boaz dans la nuit. Elle s'est endormie à ses pieds. Et là, eh bien, lorsqu'il s'est réveillé, une forme d'alliance a été scellée entre eux. Mais il y a une embûche, puisque un autre a le droit de rachat. Un autre, eh bien, est prioritaire sur le champ et sur Ruth. Et de ce fait, eh bien, Boaz va devoir aller trouver cet homme. Et Ruth devait être quelque peu dubitative, puisqu'au verset 18, il est dit, Noémie va s'adresser à elle et va lui dire, « Reste ici, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme ne sera pas tranquille qu'il ait terminé cette affaire au jour d'hui. » Et en lisant ce verset, alors que dans le cœur de Ruth, il pouvait y avoir toutes sortes de doutes, toutes sortes d'inquiétudes, hein, toutes sortes de questions, sa belle-mère va lui dire, « Eh bien, cet homme n'aura pas de cesse, ne sera pas tranquille tant qu'il n'aura pas terminé cette affaire aujourd'hui. » Et je crois que Jésus ne se donnera pas de repos tant que, eh bien, nous-mêmes, eh bien, tant qu'il n'aura pas terminé son œuvre en nous. La préoccupation de Jésus, la préoccupation de notre Dieu, eh bien, c'est nous, c'est notre bonheur, c'est ça qu'il compte. Sur la terre, eh bien, il n'avait aucun endroit où reposer sa tête. Il travaillait sans cesse, hein. La nuit, il cherchait la communion avec son Père. Le jour, eh bien, il guérissait les malades, il annonçait l'évangile, et il enseignait ses disciples, etc. Et finalement, il n'avait aucun repos, et dans le ciel, il en va de même. La seule préoccupation de Jésus, eh bien, c'est notre bien, c'est que nous soyons rachetés pleinement, si nous ne le sommes pas encore, c'est que nous soyons entre ses mains et que nous puissions grandir avec lui. Et effectivement, lorsque on commence le chapitre 4, on s'aperçoit que Boaz était déjà à la porte de la ville, là où se traitaient toutes les affaires, qu'il avait convoqué 10 témoins et qu'il attendait, eh bien, le plus proche parent, celui qui avait le droit de rachat. Et il va s'adresser à cet homme et va lui dire, voilà, hein, est-ce que tu veux racheter ce champ? Et est-ce que tu veux racheter ce champ parce que, eh bien, tu es en premier par rapport à moi? Et cet homme va dire, oui, je veux bien racheter le champ. Puis Boaz va lui dire, par contre, si tu rachètes le champ, sache que tu rachètes Ruth aussi, hein, et que c'est elle qui aura la priorité, la primeur sur la postérité. Et l'homme va répondre, Ruth, chapitre 4, verset 6, dans ce cas, version parole de vie, dans ce cas, je ne peux pas. En effet, je risque de diminuer ma propriété. Donc, prends pour toi le droit de racheter. Moi, je ne peux pas. Il était d'accord pour racheter les biens. Il était d'accord pour gagner, mais il n'était pas d'accord pour perdre. Boaz, lui, va accepter de racheter les biens, mais va accepter également de prendre Ruth dans son patrimoine. Les mauvaises langues diront qu'une femme, ça coûte cher. Et pourtant, eh bien, il va accepter de le faire, eh bien, pour toute autre raison. Et cet homme qui va refuser d'obéir à la loi, finalement, va être totalement déshonoré. Vous savez comment on les appelait, les hommes qui agissaient ainsi? On les nommait les défaussés. Parce que ils repartaient de la transaction avec une seule chaussure, puisque pour sceller la transaction, il va donner une chaussure à Boaz. Et la réputation continuera puisque sa maison s'appellera la maison du déchaussé. Hein, c'est une opprobre qui va le suivre. C'est quelque chose qui va le suivre toute sa vie. Image, bien sûr, de ce que Jésus a fait à la croix. Il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations et il a mis la honte sur l'ennemi de nos âmes, sur celui qui auparavant avait le droit de rachat sur nos vies. Et aujourd'hui, eh bien, il est notre rédempteur. Il est vivant et comme dira Ruth, eh bien, il se lèvera au dernier jour. Et donc, on arrive sur une happy end. L'affaire est faite, ils vont pouvoir se marier, hein, et puis ils vont avoir un fils, etc. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de glorieux. Mais ce que j'aimerais développer ce soir, c'est la notion de providence. Je trouve que ce livre de Ruth nous parle très bien de la providence de Dieu. Parce que, quand on connaît un petit peu la mentalité de Dieu, Dieu est un joueur d'échecs extraordinaire, qui a pour but de faire coïncider deux choses qui, de prime abord, nous paraissent inconciliables. Première chose qu'il a tracée, c'est le plan du salut. C'est le plan du salut. On connaît le récit, Éden, Adam et Ève, eh bien, qui désobéissent, le péché, hein, qui est introduit dans le monde, et puis ensuite, eh bien, Abraham qui est appelé, la naissance du peuple, du peuple hébreu qui est en Égypte, puis en Canaan, des hommes qui sont placés à sa tête, et on arrive à Jésus. Hein. Et nous rentrons dans ce plan, dans le plan du salut. On se souvient des paroles de Paul à Timothée qui dira que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu a un plan pour ce monde. Le livre de l'Apocalypse nous en révèle un petit bout. Dieu a un plan pour ce monde. Et puis d'un autre côté, il a un plan pour nous. Il a un plan pour Florence, il a un plan pour Yann. Hein. Il a un plan et le prophète, la parole de Dieu nous dit que eh bien, ce sont des projets de paix et des projets de bonheur. Et tout le principe de la providence divine est de faire coïncider notre bonheur personnel dans le plan global de Dieu. Tout converge. Les deux plans se recoupent et trouvent finalement une seule fin et convergent vers le même but. La providence, un drôle de mot, qu'est-ce que ça veut dire? On l'utilise de temps en temps. Providence, ça vient d'un terme latin. En latin, ça signifie l'acte de voir quelque chose par avance ou en faveur de ou à la place de. Donc, on s'aperçoit que la providence, c'est le fait eh bien, d'anticiper les choses bien avant qu'elles ne se produisent. Et donc, la providence de Dieu, c'est la capacité de Dieu à voir les choses avant qu'elles ne soient. Et donc, elle découle de son omniscience. De nos jours, on appelle ça hasard. On appelle ça bonne étoile. Mais nous, en tant que chrétiens, le mot qu'il est nécessaire d'employer quand les choses concourent à notre bien, eh bien, c'est tout simplement la providence de Dieu. C'est ce moment où Dieu fait coïncider notre bonheur individuel avec notre bonheur collectif. On connaît bien ce verset lorsque Paul écrit aux Romains au chapitre 8 au verset 28. Allez, par cœur. C'est selon son dessein. Bravo! Hein, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. La version parole vivante traduit de manière différente. J'ai trouvé la traduction intéressante. Je vais vous la livrer. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, car c'est conformément à son plan qu'il nous a appelés. Les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. C'est-à-dire que Dieu, parce qu'il nous aime, eh bien, agit de manière à nous faire rentrer dans le plan qu'il a pour nous. Il a une voie tracée et toute sa providence agit afin de nous faire rentrer dans le plan qu'il a tracé pour nous. Il y a un économiste qui s'appelait Adam Smith, qui a développé, c'était un économiste classique, les ancêtres des libéraux, qui a développé le concept de main invisible. Il a expliqué que le marché ne devait avoir, aucun acteur ne devait intervenir sur le marché et que lui-même était régulé par une forme de main invisible. Je crois que nos vies, c'est l'image qui m'est venue en préparant ce message, eh bien, elle est régulée par une forme de main invisible qui s'appelle la providence de Dieu. Dieu qui fait concourir toutes choses à notre bien. Et nous allons voir dans le livre de Ruth de quelle manière Dieu va s'y prendre. Première chose, il va faire concourir ses intentions bienveillantes, vont faire en sorte que Ruth et Noémie rentrent dans son plan au travers d'éléments négatifs, voire compliqués. Puisque où commence la nouvelle vie de Ruth? Lors d'un décès, ou plutôt lors de 3 décès. Il faut qu'Elimelech parte, il faut que son mari et son beau-frère meurent à leur tour, afin que l'histoire commence. Et vous savez, mes frères et sœurs, ce n'était pas du tout un manque de compassion. Le deuil est l'une des choses les plus compliquées à affronter dans une vie. Mais nos jours sont dans les mains de Dieu, et même les événements dramatiques concourent à notre bien. Une question m'est venue. Si Elimelech et ces deux hommes avaient été en vie, y aurait-il eu ce retour vers Bethléem? Non, parce qu'ils auraient toujours eu de quoi subvenir à leurs besoins. Si le mari de Ruth avait été en vie, aurait-elle suivi sa belle-mère et serait-elle rentrée dans le plan de Dieu et devenue l'une
Eh bien, des descendantes du Messie.
Non, vraisemblablement pas.
Mais au milieu de ce drame, eh bien, Dieu va faire concourir les choses
au bienheureux.
Et dans nos vies, même nos manques participent à notre bonheur. Il peut nous manquer quelque chose. Il peut nous manquer une personne. Il peut nous manquer un être cher. Il peut nous manquer l'accomplissement d'un rêve, l'accomplissement d'un projet de vie. Mais même nos manques participent, eh bien, concourent à notre bien. C'est étonnant. Parfois, nous sommes plus utiles à l'œuvre de Dieu et nous sommes plus heureux dans le plan que Dieu a tracé pour nous, sans quelque chose qu'avec. L'histoire de Ruth, l'histoire de Noémie, commence par un drame. Et pourtant, ce livre est un rayon de soleil après le livre des Juges. Bien, des exemples dans la Bible nous montrent la même chose. Deux exemples, le premier dans l'Ancien Testament, les plus belles retrouvailles qui soient, après un grand conflit familial, hein, Joseph et sa famille. Ça a commencé, on connaît, hein, Joseph était dans la citerne, après que les projets de mort étaient formés, etc. Potiphar, la prison, puis le songe, et puis ensuite, eh bien, le songe du pharaon interprété, les vaches maigres, les vaches grasses, on connaît ça par cœur. Mais Joseph, numéro 2 du pays d'Égypte, qui était la plus grande nation à l'époque. Mais comment commencent les retrouvailles? Par un temps de famine. C'est à partir du moment où Jacob se dit, ben, nous on n'a plus rien à manger, qu'il envoie ses fils chercher de la nourriture en Égypte. Parce que là, il y en avait. Et là, on voit très bien une chose, c'est que d'un côté, on a le plan de Dieu qui est de faire lever un peuple nombreux, ce qui va être le cas, puisque après les retrouvailles, eh bien, Jacob et puis ses enfants vont venir et vont s'établir dans le pays de Goshen où ils vont prospérer jusqu'à l'arrivée d'un nouveau pharaon. Donc, plan global de Dieu, et ensuite plan individuel de Dieu, pour Joseph et pour sa famille, la réconciliation et la preuve de la providence, c'est-à-dire de l'omniscience de Dieu, la vision qu'il avait donnée à Joseph alors que ce n'était qu'un jeune homme quelque peu prétentieux, avec ses gerbes qui, eh bien, s'agenouillent devant lui, avec le soleil, la lune, etc. On connaît le récit. Donc, dans ce récit, on voit très bien coïncider la manière de Dieu. Une difficulté, l'intérêt, le plan du salut qui se met en route, mais à l'intérieur de ce plan, l'intérêt individuel vient s'imbriquer. Second exemple, dans le Nouveau Testament. Pentecôte, 5000 âmes se convertissent, l'Église progresse à Jérusalem, extraordinaire, fabuleux. Jésus auparavant avait dit, allez aux quatre coins du monde, hein, allez jusqu'aux extrémités de la terre. Mais l'Église est bien à Jérusalem. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on envoie un Saul de Tarse avec quelques-uns de ses amis qui vont prendre Étienne, le premier martyr, et qui vont déclencher une persécution contre l'Église. Et du coup, quelle est la conséquence de cette persécution? Acte négatif. La dispersion de tous les chrétiens et le début de l'évangélisation qui va même se poursuivre ensuite en acte 10 avec Pierre chez Corneille et puis acte 13 avec l'envoi de Paul et de Barnabas pour, comme étant les premiers missionnaires. Là encore, on voit coïncider l'intérêt collectif de Dieu, l'intérêt général de Dieu qui s'imbrique dans l'intérêt individuel des disciples qui vont s'épanouir et voir de grandes choses avec la providence, avec l'omniscience de Dieu. Suite, eh bien, notamment à l'ordre que Jésus va avoir donné. Donc, mes frères et sœurs, oui, dans nos vies, il y aura bien des actes négatifs. Oui, dans nos vies, il y aura bien des choses, des manques, des déceptions, des échecs, des larmes. Oui. Mais ils concourent tous à notre bien. Ils concourent tous à notre bien. À un moment ou un autre, ils rentreront dans le plan de Dieu. Et ils feront en sorte de nous faire rentrer dans le plan de Dieu. Vous savez, un berger, comment est-ce qu'il ramène une brebis qui s'écarte un peu du troupeau? Il lance le bâton. Et parfois, pour nous faire rentrer dans ses plans, eh bien, notre Dieu lance le bâton. Et le bâton, ça peut être une circonstance quelque peu négative. Gentiment. Mais ça se fait d'une manière tellement naturelle. Toute chose. Et là, on part d'un deuil, c'est pas rien. Et ce deuil, eh bien, il concourt au bien de Ruth et de Noémie. Et il concourt au bien de l'œuvre de Dieu. Toute chose. Et puis, là, Dieu utilise des moyens positifs aussi, encore heureux. Et quel est le moyen positif qu'il veut utiliser? Le fait que la famine est terminée à Bethléem. Naomi l'apprend et va dire, bon, ben, puisqu'il n'y a plus de famine, il n'y a plus de raison de rester ici, d'ailleurs, il n'y a plus rien qui nous y attache, donc on retourne à Bethléem. Et là encore, il va y avoir l'action de cette main invisible, parce qu'à leur retour, Ruth va choisir le bon champ, elle va choisir le bon patron, le patron va repérer la bonne employée, hein, etc. C'est la main invisible qui réunit les gens comme ça, ça se goupille bien. La providence de Dieu. Les choses se passent bien. Je crois qu'il en va de même pour nous. En se laissant pousser, on peut se poser une question. Comment discerner la volonté de Dieu bien souvent? Eh bien, la réponse, c'est se laisser pousser par cette main invisible. J'aime beaucoup ce texte de l'évangile, je vais le citer un petit peu hors contexte, de l'évangile de Jean, chapitre 3, au verset 8, mais l'image est belle. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va. Je crois que notre vie est bien souvent un bateau à voile. Et quand on jette l'ancre, quand on relève l'ancre, eh bien, il y a le vent du souffle de Dieu qui rentre dans nos voiles et puis qui nous guide dans nos journées, qui nous guide dans nos projets. Voilà. On avance doucement. Une journée, ça n'a que 24 heures. Parfois, elles ne sont pas trépidantes. Ce n'est pas des journées extrêmement excitantes. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Hein, c'est un peu mollasson. C'est un léger vent, là, ce qui souffle. Mais Dieu conduit. Dieu, voilà, Dieu nous guide. Et puis, de temps en temps, ça souffle un peu plus. Et on sent que ça se bouscule, ça avance un peu plus vite. Et parfois, on dirait, calme-toi, ça va un peu trop vite. Mais hein, c'est le vent qui décide. Hein. C'est le vent qui décide. Parfois, ça agite un petit peu, enfin, on a peur. Mais c'est Dieu qui conduit. Je crois qu'il faut accepter de se laisser pousser un petit peu comme ça. Sans trop comprendre, tout simplement en acceptant. Seigneur, viens ma vie cool, hein, tranquillement. Eh bien, tu es aux commandes, tu gères, tu le fais. Tu as bien disposé pour Ruth, elle est allée dans le bon champ. Ben, tu m'enverras dans le bon champ, moi aussi. Hein, tu m'enverras dans le bon champ. Et là, ben, je trouverai bien la bénédiction sentimentalement, je trouverai la bénédiction professionnellement, je trouverai la bénédiction spirituellement, tu m'enverras dans le bon champ. C'est bon. Voilà, pousse ma vie. En attendant, je sais que toute chose concourt à mon bien, même quand il se passe rien. Puis Dieu ouvre, ferme des portes. Il a dit à une église, voilà, la porte que j'ai mise devant toi, personne ne pourra la fermer. Je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Dieu ouvre des portes pour nous, dispose des opportunités, qu'il faut qu'on en saisisse, qu'il faut qu'on y avance. Parfois, il y a certaines portes qui font peur quand même. Hein, parce qu'on ne voit pas trop ce qu'il y a derrière. On sait qu'il faut qu'on les prenne, qu'on y entre, mais on ne sait pas si derrière c'est la vallée de l'ombre de la mort ou bien le vert pâturage. Et on sait qu'il faut qu'on la pousse, mais il y a plein d'obscurité, on a coupé la lumière, hein, ou alors ce qu'on y voit n'est pas forcément très très engageant. Enfin bref, quelque chose d'assez diffus. Ça nous semble difficile. Ça nous semble compliqué. Pourtant, la porte est ouverte. Peut-être pour quelqu'un, ce soir, il y a une porte qui est ouverte. Et ce qu'il y a derrière n'est pas très engageant. Pourtant, il faut y aller. La porte est ouverte. Voilà. Même si on a peur, même si on a des craintes, même si ça nous paraît un peu angoissant. C'est pas grave. C'est notre Dieu qui l'a ouvert, donc il sera bien derrière. Il sera bien derrière. Et puis, on a passé tellement de temps à enfoncer des portes avant. Parce que quand Dieu ferme une porte, il la ferme bien. Et on peut se casser l'épaule dessus. Et là, il y a une porte qui est ouverte devant toi. Saisis-la. Rentre-y. Hein? Rentre-y. C'est aussi ça, se laisser diriger par Dieu. Chaque jour, dans notre quotidien, saisir les opportunités qu'il nous donne. Dans tous les domaines, même dans le domaine du témoignage, mais ça, vous ne manquez pas de le faire, j'en suis intimement persuadé. Nous devons capitaliser les bénédictions que Dieu nous donne, jour après jour. Je vous renvoie au texte, on n'a pas le temps de le développer, du second livre des Rois, au chapitre 13, au verset 18, ainsi qu'à celui de Paul et du Macédonien. Puis, troisièmement, donc Dieu se sert dans sa providence des événements négatifs, des événements positifs. Et puis, le récit que l'on a, c'est un récit de personne. C'est l'histoire de deux femmes qui vont se rencontrer. Quelles étaient leurs relations avant? On n'en sait rien. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il va y avoir un attachement fort entre elles. Et c'est une belle histoire d'amitié qui naît et qui va perdurer. Ce qui est intéressant, ce que je vous disais, c'est qu'elles étaient toutes les deux dans le besoin. Toutes les deux avaient souffert d'un deuil. Toutes les deux étaient en manque de repères. Et pourtant, toutes les deux, elles se sont entraidées, elles se sont aidées. Naomi a guidé Ruth vers le bon Dieu, le Dieu correct, hein, vers celui qui était capable eh bien, de pourvoir à sa vie, et non plus vers les dieux de Moab. Tandis que Ruth eh bien, a mis à disposition de sa belle-mère son énergie, son courage et son volontarisme. Bref, chacune des deux a apporté quelque chose à l'autre. On pourra toujours s'apporter des choses les uns aux autres. Et la main invisible, cette providence, eh bien, va les guider. Et je crois que va les avoir guidées l'une vers l'autre. Je crois que Dieu était déjà dans l'affaire, qu'il avait déjà prévu les choses et qu'il avait tissé des liens forts entre les deux. Vous savez, derrière les hommes, il peut y avoir Dieu. Derrière les femmes aussi. Je tiens à préciser, pour justement que Dieu m'attire. De différentes manières, des personnes que l'on rencontre, avec qui on fait un bout de chemin. Derrière Barnabas, il y avait Dieu lorsqu'il est allé chercher Paul, et qu'il l'a remonté à Jérusalem, et qu'il a commencé à travailler avec lui, alors que pas grand monde ne voulait le faire. Et puis, à un moment donné, ils se sont séparés, Paul a continué sa route, Barnabas également. Comme ça. Merci Seigneur pour toutes les personnes que tu as placées, pour celles qui m'ont parlé d'évangile, pour celles qui ont été des témoins, pour celles qui ont été des tuteurs, des hommes et des femmes qui m'ont tiré vers le haut, qui m'ont appris, qui m'ont enseigné. Derrière un don spirituel, il y a souvent Dieu, il y a souvent Jésus. Écoutons-les. Derrière un vécu qui nous servira d'exemple, il peut y avoir Dieu. Bref, mais Jésus est capable de nous parler au travers de toutes sortes de choses. Il a bien parlé à Moïse au sein d'un buisson. Étonnant quand même. Hein? Un drôle de lieu pour un dieu. Je ne sais pas, moi j'aurais plutôt vu un beau chêne. Non, un buisson. Un buisson. Je ne sais pas. Alors, pourquoi ne parlerait-il pas au travers d'un enfant? Pourquoi ne parlerait-il pas au travers d'une grand-mère ou même de quelqu'un que l'on n'aime pas? Mais ça ne vous arrive pas, ça n'arrive que dans les autres églises. Mais Dieu parle au travers des hommes. Et cette belle histoire entre Ruth et Naomi nous prouve que, quelque part, eh bien, on peut s'entraider les uns les autres, et que Dieu peut se servir de nous pour être une Ruth ou pour être une Naomi. C'est un beau projet, ça. Faire un bout de route avec quelqu'un, partager une belle histoire, et être un facteur et un vecteur de bénédiction. Conclusion, quatre choses. Si la main de Dieu était là, si la main de Dieu est bien là, il ne faut cependant pas tomber dans un fatalisme pseudo-spirituel. En disant, peu importe ce qui m'arrive, c'est Dieu qui le veut. Un petit peu comme les gens de la tour de Siloé que l'on trouve dans les évangiles. Mais pour bien vivre la providence de Dieu, il est premièrement nécessaire de discerner le plan de Dieu derrière les événements et les personnes. Voilà. Être capable de reconnaître la marque de Dieu. Être capable de reconnaître la logique de Dieu. Être capable de reconnaître la manière de faire de Dieu. C'est la première chose. Et pour la reconnaître, il est nécessaire de la connaître. Et pour la connaître, eh bien, on trouve comment Dieu fonctionne au travers de ses Écritures. Deuxièmement, il est nécessaire de la rechercher et de vouloir entrer dans cette providence, dans ce plan de Dieu. De vouloir se laisser guider par elle. De vouloir d'être de ceux, de celles qui nous laissons pousser par cette main. Parfois, j'ai l'impression que Dieu, pour nous pousser, il faut qu'il utilise les deux mains. Enfin, pas pour moi. Mais alors que simplement une petite tape dans le dos, ce devrait être suffisant pour nous faire avancer, pour nous faire évoluer. Et pour cela, il faut la rechercher. Il faut être capable de dire, ouais, Seigneur, bon, voilà, j'ai une journée qui s'ouvre. Voilà, soit le vent dans mes voiles, comme dit ce chant, soit le vent dans mes voiles, mais soit le vent et puis pousse mon embarcation. Troisièmement, il est nécessaire de marcher avec confiance, là où nous sommes, en croyant que la main de Dieu nous fera changer de voie quand besoin est. Vous savez, un train, quand il est sur les rails, ben, il n'est pas toujours en train de changer d'aiguillage. Mais il change d'aiguillage à peu près, pas tous les 4 matins. Mais nous, dans nos vies, il en va un petit peu de même. On est sur les rails, et puis ensuite, eh bien, on avance avec foi, en croyant que notre Dieu guide les choses. Puis à un moment donné, ben, il change de cap. On sent la douce main qui nous dit, bon, voilà, c'est autre chose maintenant. Part à droite. Et on part à droite, et puis on repart pour un long moment comme ça. Les êtres humains, j'ai l'impression qu'on fonctionne d'une manière un petit peu étrange. On veut tout le temps changer. La routine nous fatigue. Mais, pourtant, avec Dieu, ce n'est jamais vraiment toujours la routine, mais on peut rester de longs moments sur une voie avant qu'il ne nous fasse changer. Par contre, il ne faut pas rater le moment où il nous fait changer. Sinon, on tourne en rond. On tourne en rond. Puis, quatrièmement, enfin, cette troisième condition est également la condition pour apprécier le présent. Parce que toujours vouloir vivre dans le futur, finalement, on apprécie plus que l'on vit aujourd'hui. Et ça a bien des avantages parfois. Et quatrième et dernier point, il est nécessaire pour bien vivre cette providence, de saisir les opportunités avec courage lorsqu'elles se présentent, même lorsque celles-ci nous dépassent. Et saisir, c'est rentrer dedans, à fond, comme l'a fait Ruth, nous l'avons souligné il y a un mois et demi ça, et vous vous en souvenez certainement. N'est-ce pas? Oui. Elle est rentrée, non pas à moitié, mais elle est rentrée pleinement dans sa nouvelle vie. Et je crois que eh bien, c'est à notre tour d'être capable de saisir les opportunités qui s'ouvrent à nous et d'y entrer pleinement et pas à moitié. Et pas à moitié. Avec foi, avec assurance. Que le Seigneur puisse nous bénir et que le Seigneur puisse nous aider. Amen.